Bonjour, c'est Anne-Elisabeth et vous écoutez C'est à vous, un podcast de France Télévisions. Bonne émission. Bienvenue dans C'est à vous, en direct jusqu'à 20h50 avec toute l'équipe. Bonsoir à tous les cinq.
Bonsoir, madame.
Émilie, votre choix de l'actu du jour.
Un livre pour enfants qui entend briser un tabou.
Celui de l'inceste. Mohamed, la story du jour.
Ce soir, je vous explique comment passer de sans-papiers à boulanger de l'Elysée.
C'est la belle histoire d'un homme qu'on vous raconte dans un instant. Mathieu, le 5 sur 5.
Une autre histoire, l'armée de l'air qui égare une fausse bombe en Sud-Gironde. Ça fait pas du tout rire les riverains.
Toujours pas retrouvé.
Non, toujours pas.
Pierre, dans votre œil ce soir.
On souhaitera un bon anniversaire à quelqu'un qui a dédié finalement l'essentiel de sa vie au bien-être animal, Brigitte Bardot.
Autant de sujets que l'on soumet à nos invités avant de recevoir Richard Anconina qui fait ses presque débuts au théâtre. Il est notre invité du dîner préparé ce soir par Guillaume Lemel, chef du Negresco à Aix-en-Provence. Bonsoir cher Guillaume.
Bonsoir.
Ce soir, on profite des toutes dernières tomates de la saison.
C'est ça. Et tout d'abord, merci de m'accueillir sur votre plateau. Et dans le cadre de MPG, ce soir, je vais vous proposer une recette autour de la tomate de Provence, des dernières tomates de Provence, et de la brousse du Rov AOP.
La brousse du Rov qui est un chèvre.
C'est ça.
De la localité des Bouches-du-Rhône.
C'est ça.
Pour être voilà. Un peu flou.
Celle-là vient de Merreuil, exactement.
Pardon. Mais avant toute chose, l'édito de Patrick Cohen, jingle. Yannick Jadot a donc été désigné candidat à l'élection présidentielle d'Europe Écologie Les Verts.
Oui, les électeurs de la primaire ont tranché et ils ont réellement tranché en deux parts quasiment égales. 51,03% des voix pour Yannick Jadot, 48,97% pour Sandrine Rousseau, à peine 2000 voix d'avance sur 104 000 exprimées. Même écart qu'au premier tour, jamais un second tour d'une primaire de parti n'avait été aussi serré et jamais sans doute avec deux finalistes qui portaient, je ne dis pas des projets, mais des visions et des discours dissemblables. Sandrine Rousseau, dans son discours tout à l'heure, a d'ailleurs souligné sa différence en adressant une pensée à ceux, je cite, qui croient à un autre discours, qui ne se sentent pas représentés par l'offre politique actuelle, sous-entendu y compris par Yannick Jadot, la candidate qui, quelques minutes avant le verdict, devant la caméra d'Iban Raïs et d'Anaïs Recoulis, ne croyait pas à la victoire de son challenger.
Chez ELV, il y a toujours des surprises de toute façon. Qu'est-ce qu'on se dit
de... aujourd'hui, ça serait presque que Yannick Jadot gagne.
Si jamais ça se passe mal, comment il se passe le reste de la campagne? Est-ce qu'on soutient Yannick Jadot? Est-ce qu'on serre les dents et on se dit qu'il faut quand même que la cause écologiste avance?
Ah mais la cause écologiste doit avancer, la cause écologiste doit gagner, la démocratie doit s'exprimer. Et donc on verra tout à l'heure, mais voilà, je me suis engagée, j'ai pris des engagements, je le ferai.
La surprise a bien eu lieu, au grand soulagement de l'appareil, de la direction du parti. C'est donc l'écologie de gouvernement ou l'écologie des solutions, comme dit Yannick Jadot, qui l'emporte au terme d'un débat de bonne tenue qui a mobilisé au-delà des militants et brisé le brouhaha assourdissant sur l'islam, l'immigration et l'insécurité. Et c'est une candidature qui rebat les cartes à gauche.
Est-ce que c'est une mauvaise nouvelle pour le Parti Socialiste et Anne Hidalgo ?
Oui, c'est une très mauvaise nouvelle pour la maire de Paris qui a fait de l'écologie l'axe de sa campagne, qui va se retrouver concurrencée sur son terrain, sur ce terrain-là, par une personnalité dont la légitimité écolo est incontestable, Yannick Jadot, et qui vient de passer l'épreuve d'une primaire ouverte, alors qu'Anne Hidalgo ne sera plébiscitée que par les seuls militants socialistes. Yannick Jadot, il faut s'en souvenir, est désigné pour la deuxième fois pour porter les couleurs écolo à l'Elysée. Il y a 5 ans, il s'était désisté au mois de février en faveur du socialiste Benoît Hamon, avec le résultat désastreux dont on se souvient. Cette fois, on prend le pari que Yannick Jadot, porté par cette dynamique, par cette primaire, ira au bout et de façon irrévocable, comme dirait Noël Mamère, avec la volonté claire, on l'a entendu dans son discours, de prendre la tête du combat écologiste de gauche.
J'appelle au rassemblement des écologistes, au dépassement du pôle écologiste, pour que nous allions ensemble jusqu'à l'Élysée, jusqu'à l'Assemblée nationale, pour une nouvelle pratique du pouvoir au service des citoyennes et des citoyens. Oui, il est temps de tout changer.
Yannick Jadot qui, dans un autre passage de son discours, a appelé à le rejoindre tous les humanistes et les progressistes. Et la pression sera sans doute forte dans les prochains mois sur le PS et Anne Hidalgo pour mettre le train de la gauche en sens inverse de 2017, c'est-à-dire avec un écolo pour tirer le convoi et un appel à Anne Hidalgo pour qu'elle se rallie, c'est-à-dire l'inverse de ce qui s'était fait en 2017 avec Benoît Hamon et Yannick Jadot.
Bonsoir Noël Mamère.
Bonsoir.
Ancien député maire de Gironde, vous restez jusqu'à Noël Ordre, le champion de toute catégorie des Verts à l'élection présidentielle. Plus de 5% des voix, c'était en 2002.
C'est le moment où il avait parlé d'une décision irrévocable à propos de sa non-candidature pour remplacer Alain
Lipès. C'était l'époque où les primaires des écologistes ne se passaient pas aussi bien que cette année. J'étais arrivé en tête de la primaire au premier tour avec 42%. Mon compétiteur Alain Lipiès avait fait 26%. J'ai perdu le deuxième tour de 49 voix. Et les amis d'Alain Lipiès, qu'il avait soutenu dans la primaire, comme il n'arrivait pas à décoller dans les sondages, sont venus me chercher au mois d'octobre pour être le candidat supplétif, si je puis dire, ou de remplacement. Et j'avais le sentiment que j'aurais 50% du parti contre moi et que je ne pourrais pas faire une bonne campagne.
Votre
en fait, je me suis trompé.
Irrévocable.
Il y a eu un référendum. Et j'ai dit ma décision est irrévocable. Et Dominique Voynet m'a... Non, pas convoqué, mais m'a appelé le lendemain matin. Il fallait prendre une décision. Elle m'a dit, écoute Noël, c'est simple. Si tu n'es pas candidat, il n'y aura pas de candidat des Verts. Donc j'avais le choix entre prendre une responsabilité pour défendre le projet de société des écologistes en 2002, soit passer pour, disons, un petit peu ridicule. Donc j'ai eu quelques difficultés le soir au journal de 20h face à Béatrice Schoenberg, mais finalement j'ai réussi à dépasser les 5%.
Cher Noël Mamère.
Heureusement qu'il ne tue pas en politique parce qu'il y aurait beaucoup de morts.
Yannick Jadot, c'est une surprise. Vous étiez presque préparé à commenter la désignation de Sandrine Rousseau.
Alors je dirais qu'on est face à une double surprise. La première surprise, c'était le très bon résultat de Sandrine Rousseau au premier tour. Et en effet, quand on regardait les émissions, quand on regardait les commentaires, ce sont les thèmes posés par Sandrine Rousseau qui faisaient l'objet des commentaires. Je pense à tout ce qui tourne autour de la radicalité, d'un certain nombre de thèmes comme cela. Et finalement, c'est Yannick qui l'a emporté. C'est très bien.
Candidat ? C'était votre choix ?
Non, je n'avais aucun candidat. Franchement, je me suis tenu à l'écart. Je pense que si on me demande de participer à la campagne, je le ferai volontiers. Mais
vous n'avez même pas voté ?
Non, je n'ai même pas voté parce que je voulais me tenir à distance et garder ma parole sans accroc, si je puis dire. Mais ce n'est pas moi qui compte dans cette affaire. C'est Yannick qui a prouvé qu'il était capable de rassembler, même s'il a été mis en difficulté sur un certain nombre de thèmes. Mais ce qui est très intéressant à l'issue de ce deuxième tour, c'est qu'on voit que les écologistes ont réussi à sortir le débat de ce que Patrick Cohen appelait tout à l'heure le brouhaha habituel, qui sont quand même très mauvais autour de l'immigration, de l'identité, de la laïcité, et qu'ils, conformément à leur culture, ils ont mis sur la table de la société des sujets qui préoccupent toute cette nouvelle génération. Cette nouvelle génération dont, par exemple, Camille Etienne, qu'on appelle la Greta Thunberg française, dit qu'elle est devant les points de bascule. C'est une génération qui a intégré la question de l'urgence écologique, qui est très sensible aux discriminations de toutes sortes, qu'elles soient sociales, raciales ou de genre, qui a une très grande soif d'égalité, qui se bat contre les injustices et qui inscrit son combat dans cette globalité. Je pense que ça, c'est très important. Et Sandrine Rousseau, d'une certaine manière, répondait à cette radicalité. Parce que qu'est-ce qu'ils disent, ces gamins qui ont 20 ans ou 30 ans? Ils sont nés dans le néolibéralisme, ils ont connu les crises comme celle de 2007 et l'austérité, ils viennent de vivre la pandémie qui les a beaucoup isolés. On dit que ce sont des individualistes, ce n'est pas vrai. Pour la plupart d'entre eux, ils sont militants dans des ONG, dans des associations.
Plutôt.
Oui, bien sûr, ils défendent une société ouverte, en effet. Et je pense que c'est ça que représentait d'une certaine manière Sandrine Rousseau.
Et
c'est cette génération qui est en train de se mêler de ce qui la regarde et de bousculer l'ordre des choses et finalement de faire vieillir tous les appareils politiques. Parce que ce résultat, il est d'autant plus intéressant qu'il n'est pas limité au périmètre des militants. Les militants de LV, c'est quoi? C'est 15 000 à peu près, c'est 10 à 15 000, peut-être avec le vent dans le dos.
Oui, 10 à 15 000 avec le vent dans le dos.
Bon, avec le vent dans le dos. Et là, 100 000, ça commence à changer, c'est pas la France. Mm. Je ne vais pas vous dire que toute la jeunesse de France ressemble à celle qui milite pour le climat et contre les injustices. Il y a toute une
ça
partie
dire
de la jeunesse,
Jadot,
on le sait.
Il aura le vote des jeunes, en gros, c'est ça, il peut compter dessus.
Il aura le vote des jeunes, comme les Verts allemands ont eu le vote des jeunes, les 18-24 ans, ce sont eux qui ont... Les 34 ans, pardon.
Oui, ceux qui ont 34 ans. Les plus ans. Jeunes ont voté plutôt pour les libéraux du FDP. Les, hein.
Enfin, ça se vaut, parce que c'est 23% pour c'est 23% pour les Verts et 21% pour les libéraux du FDP.
Ça veut dire qu'il peut faire FDP. Plus que vous aux dernières présidentielles. Il peut battre vos fameux 5 records historiques.
Ce serait quand même consternant, accablant, et la preuve d'une véritable faillite si les écologistes n'arrivaient pas à dépasser le score que j'ai réalisé en 2002. Depuis 2002, il s'est passé 18 ans. En 18 ans, quand même, l'écologie est entrée dans la société.
Vous avez vu les résultats du dernier sondage.
Elle est aujourd'hui centrale, si je puis dire.
Le dernier sondage Harris Interactive aujourd'hui, pour Challenge, 6% pour Yannick Jadot.
Il est à 6% dans les sondages. Il était candidat d'une primaire. Il n'est pas encore entré dans la campagne. Mais ce que nous devons démontrer, et ce que Yannick Jadot doit démontrer aujourd'hui, c'est que l'écologie n'est jamais mieux servie que par les écologistes.
Et non pas par Anne Hidalgo issue des rangs socialistes, qui, a entamé une campagne
orientée. Oui, on ne va pas faire des problèmes, on va pas établir des problèmes de personnes et arbitrer les égaux et les élégances. Non, la réalité, c'est que la transformation de la société, elle est en train de se faire autour des questions que pose l'écologie. Vous voyez bien quand même ce que dit, par exemple, l'Agence internationale de l'énergie, qui n'est pas un comité de gauchistes et d'écologistes, qui nous explique qu'il ne faut pas continuer les explorations pétrolières au-delà de 2021. Le dernier rapport de la revue Nature vous dit qu'il ne faut pas explorer les 60% d'énergie fossile qui sont sur notre Terre. C'est ça qui est en jeu aujourd'hui. Et quand on voit l'augmentation du prix du gaz ou de l'essence, ça veut dire qu'on y est. On y est dans un monde qui va être difficile. Et je pense qu'on a reproché aux écologistes tout et son contraire. On dit d'un côté, les écologistes nous promettent le bonheur, et ils se trompent parce que ce sont des utopistes. Et aujourd'hui, on nous reproche de ne pas dire la vérité sur ce que sera la transformation écologique. Ça va être dur. Et comme l'a dit la Banque Centrale Européenne, qui n'est pas non plus un repère de gauchistes et d'écologistes, elle dit si on ne fait pas maintenant, si on ne met pas maintenant en œuvre les outils qu'il faut pour lutter contre le dérèglement climatique, on le paiera plus cher demain. Voilà, on y est. Donc ça va pas être facile. Il y aura des sacrifices à faire. Il y aura des pans entiers de l'industrie qui seront mis en cause.
Que l'électorat jeune, vous le disiez, que la jeune génération entend, mais c'est un électorat qui ne va pas emmener à la présidentielle. Il y a tout un pan de la société qui n'entend pas ça. Alors, les zones rurales, tout ça, ça ne dépasse pas les villes, les jeunes,
Il faut qu'on explique justement à la société, à celle qui n'a pas encore intégré le paramètre de l'écologie dans son logiciel, si je puis dire, il faut leur expliquer que l'écologie, c'est un outil de lutte contre les inégalités, que l'écologie, si elle est partagée socialement, et c'est ça le plus important, elle peut changer la vie des gens. Regardez, vous me dites, l'écologie ne sait pas s'adresser à ceux qui ne savent pas comment finir la fin de mois. OK, mais quels sont les deux marqueurs de la pauvreté aujourd'hui dans ce pays? L'obésité et le diabète, c'est lié à quoi? À la malbouffe. Donc ça veut dire que si on met en œuvre des outils pour faire en sorte que ceux qui sont les plus pauvres et qui sont malades, qui ont des problèmes de santé publique liés à cette malbouffe, à l'agro-industrie et aux pesticides, alors je pense qu'on commencera à faire évoluer les choses. Mais moi je l'ai dit depuis longtemps et c'est plus à mon tour de le dire maintenant, mais c'est que les questions écologiques, elles sont liées aux questions sociales. Et les premières victimes d'injustice sociale, ce sont les premières victimes d'injustice environnementale. Il y a toujours un lien. Et c'est ça qu'on doit expliquer. Et c'est difficile de le dire à ceux qui sont en grande difficulté. Et difficile aussi de dire que nous ne proposons pas des lendemains qui chantent, mais que ce ne sera pas facile pour tous.
Noël Mamère, est-ce que je peux vous ramener à votre candidature, celle de 2002 pour aussi nous permettre d'éclairer le présent et de commenter la situation que nous vivons aujourd'hui. 21 avril 2002, premier tour de la présidentielle.
La satisfaction que j'aurais pu exprimer devant vous en permettant aux Verts de franchir la barre fatidique des 5% pour la première fois de leur histoire est assombrie par le séisme politique que nous sommes en train de vivre. Nous n'avons pas d'autre choix que d'appeler à barrer la route de l'extrême droite et donc de tout faire pour battre Le Pen, l'homme qui propose la xénophobie, comme seul horizon pour la France. Ils ne passeront pas.
20 et...
avril 2002.
19 ans plus tard, on a le paysage occupé. On a vu tout à l'heure le résultat du sondage de Challenge. Ce n'est qu'un sondage. On est à 6 mois et demi du premier tour. Harris Interactive, etc. On a un candidat qui n'est pas encore candidat, mais qui est en forte dynamique, Éric Zemmour, qui est crédité maintenant de 13% des voix, juste derrière le candidat, le possible candidat de droite, Xavier Bertrand, et derrière Marine Le Pen à 16%. Qu'est-ce que vous inspire cette situation, Noël Mamère ?
Depuis 2002, les choses ont empiré, aussi bien à droite qu'à gauche. On a aujourd'hui un président de la République qui s'appelle Emmanuel Macron, qui s'est engouffré d'une certaine manière dans le no man's land qui a été ouvert par l'impensé politique de la gauche et par l'impensé politique de la droite. Une droite qui est allée braconner sur les terres de l'extrême droite, y compris en utilisant des mots qui étaient ceux de l'extrême droite, pensant que ça lui ferait gagner des électeurs, et une gauche qui a progressivement abandonné les valeurs de la gauche et les engagements qui étaient les siens devant les Français. Et donc c'est cet épuisement politique qui fait qu'aujourd'hui, nous avons d'une manière, j'allais dire, co-responsable, enfanté ce polémiste multicondamné qui aujourd'hui occupe le terrain avec des mots effrayants, en révisant l'histoire, en proférant des mensonges gros comme des camions, sans que personne ne s'en offusque. En fait, je pense que ce candidat-là, il est animé par une sorte de pulsion de mort. Car qu'est-ce qu'il propose aux Français ? De se replier sur soi, d'avoir des ennemis partout, de refuser l'autre, l'étranger, le musulman, celui qui n'est pas français de souche, celui qui n'a pas le bon prénom. Mais ce sont des obsessions qui ne sont pas malheureusement de notre temps, mais qui ne peuvent ramener notre pays que dans l'assèchement, que dans l'épuisement. Ce qu'il nous propose, c'est, en jouant sur nos peurs, je pense d'ailleurs qu'il lui aussi est animé par la peur des autres, et il essaie de la transmettre. Je pense que cette rhétorique-là, elle est mortifère. Et donc l'avenir que nous propose le polémiste, c'est un avenir mortifère, alors que les écologistes, eux, sont aujourd'hui dans une relation différente avec les autres, y compris tous les autres vivants, qu'ils soient humains ou non humains. Et c'est un projet de société qui devrait balayer ce qui n'est d'ailleurs pas une vision du monde. Et moi, j'ai été très choqué quand Jean-Luc Mélenchon a accepté de débattre avec...
Il ne faut pas débattre avec Éric Zemmour.
On ne débat pas avec quelqu'un dont le seul objectif est le rejet des autres, le racisme, la xénophobie, les femmes, la haine des femmes, des homosexuels.
Donc il doit parler tout seul, pas, sans contradiction.
Mais Mélenchon, qu'est-ce qu'il a fait ? Qu'est-ce qui s'est passé d'ailleurs quand on regardait les commentaires le lendemain du débat ? Deux visions du monde se sont affrontées. Mais Mélenchon est allé apporter une caution politique à quelqu'un qui n'a d'autre vision du monde que celle qui consiste à s'inventer des
ennemis partout. Mais quelle est la partout. Solution ? Qu'est-ce qu'on fait alors ?
La solution, c'est de décortiquer ce qu'il dit et non pas de relayer en permanence les bruits médiatiques auxquels il se livre par provocation, sachant que ça sera très bien repris. Il est un des champions, avant lui il y en a eu d'autres, qui joue sur la simplification du monde. Comme les gens sont paumés, parce que la droite n'est plus la droite républicaine, la gauche n'est plus dans ses valeurs, et que la mondialisation a précarisé un certain nombre de gens, ce monsieur, à sa manière, il est en train d'apporter de l'ordre dans la confusion. Oui, c'est tellement plus facile de se dire qu'on est eux et nous contre eux. C'est tellement plus facile et c'est tellement plus confortable. Sauf que c'est faux, sauf que c'est mortifère et sauf que ça ne peut conduire qu'au chaos et évidemment à des formes de fascisme, il faut dire le mot comme ils sont, que nous ne pouvons pas accepter.
L'immigration, c'est un des thèmes qu'Éric Zemmour a imposé en étant pas encore candidat, mais en occupant une place importante sur le...
Oui, enfin, disons qu'il a imposé, vous oubliez que... quand Sarkozy a été élu président de la République, il est allé chercher un ancien socialiste qui est devenu ministre de l'immigration et de l'identité. Ce n'était rien d'autre que le slogan prononcé quelques années plus tôt par Le Pen, 3 millions de chômeurs, 3 millions d'immigrés, 3 millions de chômeurs. Enfin, voilà. Et donc, il ne fait que reprendre avec ses mots, et à un moment qui correspond à la fragilité des Français, ce qui a été dit par d'autres avant lui et que l'on qualifiait de fasciste.
Pierre.
Je reviens d'un mot sur l'énergie. On parle beaucoup en ce moment des augmentations du prix du gaz, le tarif réglementé qui augmente nettement vendredi. Puis il y aura l'augmentation du prix de l'électricité en 2022. D'ordinaire, on parlait surtout de pouvoir d'achat et de dire « mais pourquoi ces hausses ?» Là, aujourd'hui, vous êtes de ceux qui disent, vous l'avez évoqué d'un mot tout à l'heure, en fait, c'est de modèle qu'il va falloir changer parce que la planète dépense trop d'énergie, de ces énergies-là, en tout cas.
Oui, ce n'est pas moi qui le dis. J'ai pris référence tout à l'heure à l'Agence internationale de l'énergie, à la BCE, à la Revue Nature, à tout ce que disent les scientifiques, à commencer par les scientifiques du GIEC. Donc, on ne peut pas continuer sur ce modèle qui épuise les ressources de la planète et qui épuise les hommes en même temps. Donc, on est en face, petit à petit, on se rapproche du mur. Ce sont ces points de bascule. Et là, on est en train de basculer. Si on continue à se dire, bon, eh bien, d'accord, le gaz augmente, l'essence, l'électricité augmente, mais on continue comme avant, business as usual, c'est sûr que ça ne pourra pas fonctionner et que l'on s'acheminera, et c'est ça qu'il faut dire. Et les écologistes défendent un autre modèle. C'est que dans la mesure où on sera confronté à la raréfaction des ressources, à l'augmentation des inégalités qui sont déjà très grandes, on va être soumis à des régimes autoritaires parce qu'il faudra réglementer de manière autoritaire, par exemple, la consommation de l'énergie, la consommation de l'eau. Ça s'appelle une forme d'éco-totalitarisme et d'éco-fascisme. Or, le projet des écologistes depuis toujours, c'est d'opérer cette transformation écologique de manière démocratique.
Ceux qui ont fait le choix de ralentir, de redevenir des terrestres, de changer le monde, vous êtes allés à leur rencontre, c'est ce que vous appelez les terrestres, et vous reprenez un peu votre bâton de journaliste, puisque vous êtes en reportage chez les éclaireurs du monde d'après. Voilà cette bande dessinée aux éditions du Faubourg que vous avez co-signée avec Raphaël Macaron et dont on voulait signaler la publication. Vous restez avec nous, on continue à évoquer l'actualité, c'est l'heure de la story de Mohamed Bouafsi. Non, bougez pas, Noël. Bonsoir, Mohamed.
Bonsoir à toutes et à tous.
Elle sera sur les tables de l'Élysée pendant un an.
C'est ça.
Elle a une drôle d'histoire, cette baguette.
Elle est belle, en tout cas. De sans-papiers à boulanger de l'Élysée, c'est la belle histoire de Makram Akrout. Le boulanger de Reuilly, dans le 12e arrondissement de Paris, a été élu vainqueur du Grand Prix de la meilleure baguette de Paris. Une énorme fierté pour cet homme d'origine tunisienne, boulanger de père en fils, qui est arrivé sans-papiers il y a 19 ans en France.
Et tous ces années de travail, 19 ans de travail ici en France, j'ai commencé comme un net boulanger et tout, et là je suis qualifié. Et
à partir de 2017, j'ai commencé à être classé dans les déprimés. Je n'ai pas arrêté, j'ai continué à évoluer et à développer la qualité.
Je suis élu du fournisseur d'Élysée. Bon, c'est une grande fierté ça pour moi. Je dois continuer à faire des choses bien comme ça.
Alors, cette baguette a été élue meilleure baguette face à 121 autres concurrentes. Elle a été élue sur 5 critères. Alors, l'aspect visuel extérieur, ça vous plaît, magnifique. J'imagine, elle est magnifique. La cuisson, franchement, et l'odeur. La mie, elle est... très belle. La mie,
Pierre. On voit bien.
Elle se coupe. Évidemment, le goût, Pierre, je vous laisse découvrir.
À Noël, non. Noël, ma mère.
Noël.
Je veux bien.
Vous voulez des messages ou pas?
Je sais pas, c'est quoi de dire.
C'est bon de goût.
C'est bon de goût.
C'est bon.
Mais là, je dois en donner à tout le monde. Ça veut dire Patrick.
Merci beaucoup. Allez, on y va.
Comme dirait Colombo, ma femme dit toujours c'est bon de goût.
Avec plaisir, merci.
Hop, Makram Akrout est devenu un apprenti en France en 2002. Immigré tunisien pendant plusieurs années, il a enchaîné les boulangeries pour progresser et améliorer la qualité de son pain. Aujourd'hui, le franco-tunisien est propriétaire de 2 boulangeries. Depuis, son prix qu'il considère comme la plus belle fierté de sa vie, le bouche à oreille fonctionne parfaitement. Dans le 12e arrondissement de Paris, sa boutique ne désemplit pas.
Le premier jour, on est presque 800 personnes en plus. Le premier jour. Hier, pareil, ça a été, pareil aussi, presque 600 personnes. C'est des gens qui viennent pour découvrir la la baguette, la gagnante, voilà.
Et les clients viennent de tous les arrondissements de Paris pour découvrir ces baguettes tradition.
On cherche toujours le meilleur pain dans Paris. Donc je suis à l'affût des bons pains et je vais d'arrondissement en arrondissement et j'ai appris effectivement qu'ils avaient gagné le prix cette année. Donc je teste.
J'étais en bus et je vois arriver la boulangerie et je me suis dit mais c'est là en fait la meilleure baguette de Paris. Donc je suis descendue précipitamment dans mon bus pour aller acheter la baguette. Elle est toute chaude en fait. Elle est à peine à sortir du four. Elle est bonne, ouais.
Elle est bonne. Outre le gain de 4000 euros pour Makram Akrout, le prix de la meilleure baguette de Paris apporte à l'enseigne une grande notoriété et l'honneur de fournir l'Élysée durant une année. Dans les prochains jours, Makram Akrout compte bien s'entretenir avec l'Élysée afin de connaître les goûts du couple présidentiel. Et il ne compte pas s'arrêter là. Il compte participer au concours du meilleur boulanger de France. Et pour rappel, messieurs, dames, la France s'est portée candidate avec la baguette pour le patrimoine mondial de l'UNESCO. Réponse à l'automne 2022. On espère gagner avec cette baguette.
Les talents, bah oui, là, c'est, ça change de la culture du doigt, la culture digitale. Là, il faut un savoir-faire, il faut savoir se servir de ses mains.
C'est ça, un talent. Et qui vient de Tunisie.
C'est très intéressant parce qu'aujourd'hui, dans plein d'endroits, on voit s'installer ce qu'on appelle des paysans boulangers, qui sont à la fois paysans et boulangers, qui introduisent des variétés de farine qui avaient été interdites pendant très longtemps par le puissant lobby des semenciers. Donc c'est tout à fait intéressant de voir ce retour vers le pain et le pain de qualité.
La gourmandise.
Le pain de qualité, ouais. Fabriqué par un homme qui est venu de Tunisie,
oui.
Et qui a réussi en France à s'installer, à développer son talent, à le faire vivre.
Il n'y a pas besoin de démonstration, la voilà, la démonstration. Pas besoin de discours, si je puis dire. Vous avez la démonstration de ce qu'on s'enrichit toujours des autres. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Toby Nathan.
Noël, je vous l'offre.
Ah, merci beaucoup.
Mettez-la sous le bras, comme manger. Les bons Français. Vrai, vrai.
Il me manque le béret.
Merci beaucoup, Mohamed. À tout à l'heure pour la Story Média. L'inceste, c'est un tabou, Émilie. On estime que sur une classe de 30 élèves de CM2, 3 enfants en sont victimes. Et c'est à eux que s'adresse un livre dont vous nous parlez ce soir.
Oui, il était une fois. Miette habite dans une joyeuse maison avec sa famille. Seulement voilà, personne ne le sait, mais il y a le loup. Personne ne peut deviner que c'est aussi un loup parce qu'il est très gentil, tout le monde l'aime bien. Mais Miette le sait, elle, car parfois quand personne ne fait attention ou quand tout le monde dort, il change. Il rôde autour d'elle comme un loup, son œil devient perçant et discrètement, à pas de loup, il vient embêter Miette. Alors Miette, c'est l'héroïne de ce livre, Loup, un livre pour enfants avec des dessins. Vous voyez la douceur des aquarelles. Pour parler de la violence, de l'inceste, c'est elle qui a eu l'idée de ce livre. Mélane Chapiron, chanteuse, styliste, costumière, elle-même victime de violences sexuelles de la part de son grand-père. C'est elle encore que l'on va voir sur la campagne pour lancer une nouvelle plateforme d'écoute. Un numéro vert lancé il y a une semaine aujourd'hui. Pour la première fois, une ligne rattachée à une instance officielle recueille la parole des victimes d'inceste. Les locaux de cette plateforme d'écoute se trouvent au sein de l'association Collectif Féministe contre le Viol qui, depuis plus de 30 ans, fait ce travail d'écoute. Au bout du fil, il y a des femmes pour la plupart. Les appels sont anonymes. Seulement un prénom ou un pseudo et le numéro de département sont demandés. Un numéro disponible tous les jours entre 10h et 19h.
Oui.
Il y avait un off à rajouter normalement.
Oui. Là, on comprend vraiment votre souffrance. Hein. C'est extrêmement difficile la situation dans laquelle vous êtes. Vous avez été hyper courageuse. Continuez comme ça, d'accord? Et n'hésitez pas à nous tenir au courant.
Pardon, hein. La douceur, l'attention, la patience, je pense que c'est vraiment hyper aidant et même salvateur pour beaucoup de gens qui appellent. Quand on fait une révélation, c'est vraiment un pas de dingue. Et la qualité de l'écoute qu'on a en face, elle est hyper importante. Si on a une écoute de mauvaise qualité, ça peut carrément rajouter finalement un deuxième trauma.
Un deuxième trauma ou alors quand il y a une écoute à l'autre bout du fil, une soupape de décompression, un espace où on peut enfin aborder cette violence sexuelle pas comme les autres, celle commise par les proches, par la famille, par ceux qui sont censés nous protéger. En France, le tabou commence à peine à être levé. C'est le livre de Camilla Kouchner, La famille agrandée, qui a mis un coup d'accélérateur. Mais on n'a pas encore tous les outils aujourd'hui en France pour protéger les enfants. C'est aussi ça l'objectif de cette plateforme, recueillir les témoignages pour mieux y répondre. Et il y a une attente immense à voir comment la ligne téléphonique a été assaillie d'appels dès son ouverture.
À 10h, on avait déjà toutes les lignes saturées, plusieurs milliers d'appels la première journée. Donc il y a eu des quantités de gens auxquels on n'a pas répondu.
Bonsoir Charlotte Pudlowski.
Bonsoir.
Journaliste, auteur d'un documentaire audio sur l'inceste, notamment celui dont a été victime votre mère, désigné meilleur podcast 2021, podcast qui avait atteint près d'un million d'écoutes et qui devient aujourd'hui un livre, ou peut-être Une nuit qui paraît demain chez Grasset. On y va dans un instant, mais cette plateforme d'écoute, cet appel à témoignage, assailli justement d'appels, des milliers en quelques jours, ça ne vous étonne pas ?
Bah non, puisqu'on sait qu'il y a à peu près 6 millions de personnes qui sont victimes d'inceste en France et qui n'avaient pas jusque-là de possibilité pour eux et pour elles de parler. Donc effectivement, c'est une parole qui a besoin d'être entendue.
Les chiffres sont sidérants. Sur une classe de 30 élèves de CM2, on estime, et c'est le chiffre le plus fiable scientifiquement, que 3 enfants sont concernés. Et c'est la moyenne d'âge auquel les crimes d'inceste sont le plus souvent commis sur ces enfants, c'est autour de 9-10 ans.
Oui, c'est la classe de CM2. Donc effectivement, il faut que les gens qui nous écoutent là, par exemple, se disent dans la classe de mes enfants, si ce n'est mes enfants, il y a 2 à 3 enfants qui fréquentent tous les jours, qui vont en cours de sport ensemble, qui vont à la récréation, etc., qui sont victimes d'inceste le soir quand ils rentrent chez eux.
Il n'existe pas d'autre tabou commis aussi souvent. Autrement dit, on est tous concernés de près ou de loin par ce fléau, y compris votre famille, Charlotte, sauf que vous l'avez ignoré pendant 26 ans, jusqu'au soir où votre mère raconte, révèle son secret, avoir été victime d'inceste, agressée sexuellement par son père, dès l'âge de 10 ans. Et c'est presque autant la révélation de l'inceste que le silence qu'a conservé votre mère si longtemps qui vous a sidéré.
Oui, c'est même plus le silence que la révélation, parce qu'en fait, un peu toujours dans les secrets de famille, on ne sait pas forcément comment le nommer, ce dont il s'agit, mais on pressent qu'il y a quelque chose. Et donc moi, comme ma grande sœur avant moi, comme mon petit frère, on pressentait qu'il y avait quelque chose qu'on nous disait pas. J'aurais été incapable de dire que c'était de l'inceste, mais on savait qu'il y avait quelque chose. En revanche, moi je suis extrêmement proche de ma mère, et globalement on est très proches tous les 5, on se parle beaucoup, et pas que de sujets anodins, on parle
c'est
de nos angoisses.
Une famille qui semblait parfaite, équilibrée.
Parfaite peut-être pas, mais en tout cas, voilà, où la parole circulait énormément, on débat beaucoup, on parle de sujets de fond, et ça, elle ne me l'avait pas dit. Et du coup, c'est vraiment le point de départ du podcast, et ce que j'ai essayé de prolonger dans le livre, qui est vraiment l'aboutissement, c'est de comprendre vraiment ce silence.
Ce que vous appelez la guerre du silence. Votre mère vous explique, c'est ma vie privée, j'ai pas spécialement envie d'en parler, je veux pas gêner son père tant qu'il était en vie, son mari. Ce qui est incroyable, c'est que personne ne lui avait demandé de se taire. Et pourtant, elle a été prisonnière de cette mécanique du silence.
Alors, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est-à-dire qu'on demande toujours aux enfants de se taire. On ne le demande pas forcément explicitement. C'est-à-dire que parfois, c'est des menaces. Parfois, c'est « si tu parles, je te tue ». Et parfois, ce n'est pas dit explicitement, mais c'est quand même sous-entendu avec du chantage affectif, avec une manière de faire régner globalement le silence sur tout, pas que sur ça, sur la discussion de manière générale. Et quand elle avait parlé, ma mère, et c'est ce que je raconte aussi dans le livre, elle avait raconté à une de ses sœurs et à un de ses frères quand elle était petite, et il ne s'est rien passé. Donc c'est aussi rendre complètement vaine la parole que de dire bah, je vais expliquer aux gens qui sont avec moi au quotidien que je subis des violences et il ne se passe rien. Donc ça veut dire aussi peut-être que ma parole est inutile, qu'elle ne sert à rien et que je ne suis pas censée l'utiliser.
Les victimes d'inceste ont appris à se taire.
Oui, par un certain nombre de ce que j'appelle les cercles du silence, c'est-à-dire que déjà il y a un fonctionnement de mémoire traumatique, c'est-à-dire que les victimes très souvent oublient qu'elles ont été victimes parce que c'est un mécanisme dans le cerveau qui permet la dissociation, voilà, pour défendre. Ensuite, il y a effectivement l'agresseur qui intime aux victimes de se taire plus ou moins explicitement. Et ensuite, il y a l'entourage, c'est-à-dire les frères et sœurs, les oncles et tantes, la mère. Parfois, qui ne vont pas entendre, pas écouter ou refuser de voir. Et du coup, ça apprend effectivement aux enfants à se taire.
Mais même si elles se taisent, les victimes manifestent malgré elles leur souffrance. Et c'est des manifestations physiques de ce qu'elles subissent auxquelles il faut être attentif.
Oui, et c'est un truc un peu ambigu et je ne veux pas laisser entendre que c'est hyper facile et que c'est... que les victimes se baladent avec un écriteau et que, du coup, si votre enfant ne se balade pas avec un écriteau, pas de problème, vous pouvez dormir tranquille. Et je ne veux pas non plus sous-entendre, et c'est tout ce que j'essaye de raconter dans le livre, qui est aussi une déclaration d'amour à ma mère, qui est vraiment un être exceptionnel, c'est que ma mère, elle est vraiment très heureuse. Et ça fait longtemps qu'elle est heureuse maintenant. Elle est en couple depuis, 50 ans, on est une famille hyper unie, elle a plein de passions, elle a plein d'activités, etc. Donc on peut très bien être très heureux, mais il y a plein de manières de manifester son mal-être à travers la solitude, à travers des tics, à travers...
De l'eczéma, des difficultés à dormir, des troubles alimentaires.
Absolument. Il y a 1000 petites manières dont l'enfant où les enfants vont réussir à signaler leur souffrance, parce que c'est une souffrance immense.
Oui, vous dites, je n'ai jamais rencontré aucune personne victime d'inceste qui n'ait eu de, vous appelez ça une sortie de route, en tout cas une façon de manifester son mal-être.
Oui, parce que il faut imaginer que c'est vraiment les gens qui sont censés nous aimer, nous protéger. Ça peut être les parents, mais si c'est le grand frère, si c'est le grand-père, etc. C'est des gens dont on nous apprend ce double discours de c'est vraiment ton espace sécurisé, l'endroit de la tranquillité, la famille, etc. Mais l'enfant se rend bien compte que c'est aussi l'endroit où il subit des violences qui peuvent être même douloureuses physiquement. Enfin, je veux dire, se faire violer quand on a 5, 6, 7, 8 ans, c'est une douleur psychologique, mais c'est aussi une douleur physique. Donc évidemment que ça a des conséquences après très concrètes.
Justement, hors de la cellule familiale, on parle de la classe de CM2, bon, on peut penser à l'école, sauf que l'école n'est pas formée ou ne repère pas les petites choses dont vous parliez.
Alors, non seulement, effectivement, personne n'est formé globalement dans la société, à part depuis quelques années dans des cellules très spécialisées, dans quelques centres qui ont pu ouvrir en France. Le corps enseignant n'est pas formé, mais on sait très bien aussi que dans l'école telle qu'elle est aujourd'hui, on manque d'enseignants, que quand il y a des profs principaux qui sont absents pendant des mois et des infirmières scolaires qui sont absentes pendant des mois, voire qui ne sont pas embauchées pendant des années dans certains lycées, enfin, non seulement ils ne sont pas formés, mais même s'ils étaient formés, il n'y aurait personne à qui parler. Donc c'est globalement un manque total de prise en compte, et on peut dire la même chose sur les médecins, on peut dire la même chose sur les avocats, des avocats commis d'office qui se retrouvent avec des mères, par exemple, dont les enfants ont fait un signalement sur le père, etc. C'est l'ensemble de la société qui ferme les yeux sur ce problème-là.
Un rapport de l'ONU révèle qu'il n'y a pas de spécificité française en ce qui concerne les chiffres de l'inceste. En revanche, vous vous dites qu'il y a une spécificité française, un discours sur la séduction à la française, qui fait que contexte n'est pas le même.
Ce que le rapport dit, c'est qu'il n'y a effectivement pas de spécificité sur les chiffres, mais une spécificité dans le déni et dans la façon dont, en France, on refuse de faire des signalements, au niveau de l'ordre des médecins, au niveau de la manière dont certains juges ont longtemps utilisé le syndrome d'aliénation parentale, qui est une manière d'accuser la mère quand l'enfant dit « papa m'agresse », on va dire « c'est parce qu'il est manipulé par sa mère ». Et il y a vraiment énormément de décisions de justice qui ont été rendues au nom de ce truc qui s'appelle syndrome, mais qui n'est absolument pas un syndrome, qui n'est pas reconnu par le corps médical, par le DSM, par les manuels officiels, etc. Donc il y a effectivement une spécificité française dans le refus de prendre en compte le problème.
Parmi les outils justement pour mieux protéger les enfants, il y a celui qui est de croire l'enfant. C'est ce que nous expliquait le juge des enfants Édouard Durand sur notre plateau, c'était il y a près d'un an.
La parole des êtres humains, quel que soit leur âge, qui dit « j'ai besoin d'aide, je suis victime de violence », doit être entendue pour ce qu'elle est et crue, d'autant plus que c'est tellement difficile de le dire, vous venez de le rappeler à l'instant, qu'il faut croire.
Entendre un enfant quand il parle et le croire, ça peut paraître évident, et pourtant, ce n'est pas le cas en France.
Alors, c'est le cas, je pense, nulle part globalement dans des sociétés où on est conditionné au silence. C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé mon enquête, puisque vraiment le but de l'enquête, c'était de comprendre le silence de ma mère. C'était vraiment un questionnement très personnel. Et dans ce questionnement-là, il y avait comment c'est possible que sa mère, ma grand-mère, ne l'ait pas vue ou l'ait vue et n'ait rien dit. Et quand ma mère a commencé à me raconter cette histoire-là, je sentais bien qu'elle était plus en colère contre sa mère que contre son père. Et du coup, moi, digne fille de ma mère, j'étais plus en colère contre sa mère que contre son père. Et c'est au fil de mon enquête que je me suis rendu compte que c'était la mauvaise question. Et qu'en fait, on attend toujours de l'entourage, mais spécifiquement des mères, qu'elles protègent leurs enfants et qu'elles soient capables, puisque cet amour qui devrait être total, omniscient, parfait, idéal, etc. Mais en réalité, l'inceste ne surgit jamais de nulle part. On ne se réveille pas un matin dans une famille où il y a de l'inceste. C'est sur des générations et des générations. Et donc, le plus souvent, par des mécanismes de reproduction, les mères, en réalité, ont souvent été incestées elles-mêmes dans leur enfance. Donc, elles ont aussi fait cet apprentissage de la violence et du silence. Et donc, ce n'est pas facile d'entendre ou de croire un enfant parce qu'on est tous conditionnés. Et c'est ce qu'on disait sur les 2 à 3 enfants par classe. C'est-à-dire, 2 à 3 enfants par classe, ça veut dire 27 qui sont socialisés, qui tous les jours vont à l'école en se disant « Il y a un gamin qui a l'air d'aller pas ouf au fond de la classe, mais on ne va pas lui poser de questions, on va suivre le cours comme si c'était normal. Il n'a pas trop d'amis, on n'a pas envie de traîner avec lui parce qu'il est un peu bizarre. Il touche les fesses des filles, il fait des trucs bizarres avec son sexe alors qu'on a 8 ou 9 ans, etc. Mais on ne pose pas de questions, c'est normal, business as usual. » Donc en fait, on est tous conditionnés pour ne pas entendre, voire ne pas croire.
Ou peut-être une nuit, ça sort demain chez Grasset et c'est le documentaire audio qu'on peut retrouver dans ce livre, vraiment un documentaire audio exceptionnel et qu'on peut lire tranquillement à partir de demain chez Grasset. Merci, vous restez avec nous, c'est l'heure du 5 sur 5 de Mathieu Béliard. Bonsoir Mathieu.
Bonsoir Babette, bonsoir à toutes et à tous.
Dans le 5 sur 5 de ce soir, les producteurs de lavande s'opposent à un nouveau projet de réglementation européenne.
C'est un sujet comme ça qui peut avoir l'air un peu technique, complexe, alors je vais commencer simple. La lavande, ça sent bon. On est tous d'accord autour de la table. Ce parfum, très simple, oui, ce parfum vient de petites molécules volatiles que l'on extrait de la plante et que l'on met dans des petits flacons. C'est l'huile essentielle de lavande que vous utilisez peut-être à la maison. Et dans une démarche de chasse aux produits chimiques, allergènes, cancérigènes, l'Union européenne veut faire inscrire allergène sur l'huile essentielle de lavande précisément, ce qui inquiète toute la filière. Une pétition en ligne dépasse désormais les 160 000 signatures. On y vante des savoir-faire, des métiers ancestraux, des paysages, un patrimoine. Écoutez ce producteur de lavande.
Dans la lavande, on trouve certaines molécules, dont le linalol, qui va être considéré comme un produit dangereux, alors que naturellement, elle est constituée dans la plante.
Ça veut dire que les produits naturels vont se trouver sur des listes noires, et même si légalement, il n'y a pas d'interdiction de les utiliser, aucun fabricant de produits cosmétiques ou de parfumerie ou de produits alimentaires ne les utilisera.
Il n'y a pas que ce producteur, hein, c'est sur le littoral méditerranéen que l'on s'inquiète le plus, évidemment, la lavande, un symbole de la Provence, et je vous laisse imaginer la récupération politique. Julien Aubert, député du Vaucluse, qui écrit au gouvernement, il faut dire que son micro-parti s'appelle Rassemblement Bleu Lavande, même combat pour le président de la région Sud.
Ça représente 17 000 emplois indirects, 6 000 emplois directs, c'est plus de 20 000 hectares qui magnifient notre territoire. Donc c'est une mobilisation générale aujourd'hui, qui a bien montré d'ailleurs dans le cadre de son action fin juillet qu'il y a un soutien très fort dans la population, puisque ça soit sur les réseaux sociaux, c'est près de 300 000 personnes qui ont été touchées en disant « ne touchez pas à nos lavandes, donc on va se battre ».
Et si vous êtes familier de ces petits flacons d'huile essentielle, figurez-vous que ça devient même un enjeu électoral. C'est un exemple. Là, on voit la visite de la candidate Valérie Pécresse dans les champs de lavande, ce qui fait de belles images. Noël, ma mère, quel regard est-ce que vous portez sur cette initiative européenne? On cherche à alerter sur des produits toxiques et en même temps, on s'en prend à ce savoir-faire.
J'ai écouté plusieurs sons de cloche, donc je ne suis pas sûr que la Commission européenne veuille aller jusqu'au bout et qu'elle menace vraiment la production de lavande. Donc c'est encore... Alors je suis évidemment pour les huiles essentielles qui ne sauvent pas de tous les maux, mais pour la production de lavande, à condition qu'elle soit respectueuse d'un certain nombre de règles, parce que pour produire de la lavande, on y met aussi quelques insecticides. Mmh. Donc voilà.
Lynn Renaud s'engage, elle défend le droit à mourir dans la dignité.
Oui, elle était à l'Assemblée nationale aujourd'hui, aux côtés de députés qui défendent un texte sur la fin de vie. « Je ne veux pas mourir enchaînée », a-t-elle dit aux journalistes présents, indignée de voir des Français partir en Suisse ou en Belgique pour choisir leur mort.
Non seulement ça m'énerve, mais vous imaginez quelqu'un qui est dans la souffrance déjà, et puis qu'il voudrait mourir entouré des siens, dans son lit probablement, de partir, d'aller en Belgique, de prendre la voiture, de faire le voyage, et d'aller vers la mort, d'aller la chercher, alors qu'on peut l'apporter à la maison. Et en douceur. Je ne comprends pas que nous laissions partir les Français se faire mourir ailleurs.
Débat politique, débat de société, bien sûr. Autre ton chez Lynn Renaud quand on lui demande ce qui bloque sur ce sujet.
La réponse est aux députés, pas à moi. Qu'est-ce qui bloque dans ce pays? Alors, qu'est-ce qui bloque dans ce pays?
Un petit carteron de députés réactionnaires.
Et voilà.
Alors je vous repose la question, Noël Mamère, qu'est-ce qui bloque sur ce sujet?
Sur ce sujet-là, il y a plusieurs blocages, mais je me souviens en 2002, dans les thèmes de campagne que j'avais abordés, je défendais le droit à mourir dans la dignité. J'étais malheureusement le seul des candidats. Après, quand député, je participais à la commission de révision des lois bioéthiques avec Alain Claïès et Jean Leonetti. Ils ont refusé que l'on aborde la question du droit à mourir dans la dignité. Mais vous savez, ce n'est pas le seul sujet sur lequel les élus sont en retard par rapport à la société. Car si on fait une enquête, évidemment, on trouvera une majorité de citoyens pour dire qu'on a le droit de mourir dans la dignité. Mais je rappelle qu'aujourd'hui, nous célébrons la journée du droit à l'avortement et qu'on a une Assemblée nationale, en complicité avec le président de la République, qui refuse de passer de la 12e à la 14e semaine, comme cela existe en Espagne, en Belgique et ailleurs. Et résultat, il y a entre 3 et 5 000 femmes qui vont se faire avorter en dehors de nos frontières. Je trouve que c'est une vision très conservatrice des problèmes de société, comme s'il y avait en dessus de nous une instance spirituelle ou religieuse qui nous empêcherait d'avancer pour que l'on... Ben oui, mourir dans la dignité. Il y a déjà tellement de gens qui vivent mal, qui n'arrivent pas à vivre dans la dignité, qu'au moins on puisse leur offrir la possibilité de mourir dans la dignité.
Dans le 5 sur 5 ce soir, la France vend 3 frégates à la Grèce.
Oui, pour 3 milliards d'euros, un contrat signé par Emmanuel Macron et le Premier ministre grec hier. Après l'affaire des sous-marins, c'est un petit contrat, hein, si l'on compare bien sûr. Des frégates de 120 mètres de long, high-tech, construites en France. C'est une façon de sauver l'honneur pour Naval Group. C'est un contrat signé alors que les Américains étaient dans le coup, on nous le précise. Mais Emmanuel Macron a tenu à dissocier les deux dossiers.
Le choix australien, dont d'ailleurs toutes les conséquences sont encore à déterminer dans les semaines qui viennent, n'a pas d'impact sur la stratégie indo-pacifique française. Ce que nous signons aujourd'hui, à mes yeux, est un partenariat structurant qui est en cohérence avec ce que nous sommes et qui est aussi cohérent avec les choix que nous avons pris et assumés à l'été 2020. Donc tout ça vient de beaucoup plus loin.
Alors on parle de nos équipements militaires ce soir et des mers, on passe aux airs. L'armée de l'air a égaré une fausse bombe en Gironde. Vous m'avez bien entendu, une fausse bombe. Vous regarderez dans votre jardin, monsieur ma mère. Soyons précis, un simulateur de bombe, on appelle ça un emport d'exercice. Il s'agit d'un tube bleu d'1,90 m de long. Alors là-bas, on a déjà passé le message aux promeneurs, aux chasseurs, c'est très sérieux. Aux cueilleurs de champignons, il faut dire que l'engin a été perdu sur une zone de 80 km de long.
Il semblerait, d'après le déroulement et le suivi de la procédure qui a été effectuée par l'équipage, que ce soit plutôt une problématique mécanique. Vous savez, il y a deux crochets qui retiennent ce dispositif. À un moment donné, il y a dû y en avoir un qui a dû s'ouvrir. C'est jamais arrivé, je vais insister sur ce point-là. C'est la première fois que ça nous arrive avec ce type d'emport d'exercice. Donc ça a été une surprise pour nous. Mais là, on va investiguer pour comprendre, parce qu'on a vraiment besoin d'utiliser ces dispositifs pour nous entraîner. Là, il n'y a pas d'explosif, donc ce n'est pas une bombe. Il n'y a pas de danger, en fait, techniquement, avec ce dispositif. Il est au sol. Mais écoutez, on vous demande juste de nous le réintégrer si vous le trouvez. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin de comprendre exactement ce qui s'est passé.
Fausse bombe, donc pas un explosif, une fausse bombe, mais un véritable agacement pour les habitants de la région qui sont habitués au bruit et autres nuisances causées par ces exercices militaires.
Cet engin-là aurait pu aussi bien tomber sur des bâtiments, voire des écoles ou autre chose. Les avions font pas mal de rotation, des fois à très basse altitude. Ça dégrade certaines maisons. Le problème est important quand même, parce qu'on ne se sent pas toujours en sécurité, quoi.
L'armée de l'air a répondu à ces riverains.
Nous avons réduit fortement l'activité sur le chantier. Il faut savoir que quand même, en l'espace d'une dizaine, une vingtaine d'années, l'activité sur le chantier a été réduite de 50%. C'est pas négligeable. Nous avons aussi adapté tous nos processus pour pouvoir réduire les gènes sonores qui peuvent être constatés auprès de ces villageois. Ce chantier est quand même extrêmement éloigné des habitations. En l'occurrence, les gènes qui sont mentionnés sont pas dans le périmètre juste derrière le grillage, si je puis dire. Nous avons un autre chantier qu'on utilise en mer, mais il y a une complémentarité entre ces deux. C'est quasi le seul chantier terrestre qu'on a en France.
Bon, on connaît ça, hein, quand on habite entre Bordeaux, Toulouse, ces régions-là, vous les entendez passer, les mirages ?
Oui, on entend passer les mirages, mais surtout, je constate que l'habitant est à Lucmo, c'est dans les Landes girondines, et ce qui me rassure, c'est qu'il y a plus de cèpes que de bombes dans cette
ah oui, et ça, vous les avez comptés, les cèpes ?
Non, pas encore, mais je vais y aller.
Des adieux ce soir, Mathieu.
Oui, et quelques notes de musique suffisent, en général, pour reconnaître 007, grande première, avant-première mondiale, ce soir à Londres. Mourir peut attendre, dont la sortie a été repoussée à plusieurs reprises.
Alors,
les fans
attendu,
attendent.
Hein.
Oui, ça fait un an et demi en fait. Hein, que le Covid nous laisse voir ce 25e épisode de la saga.
J'ai rencontré votre nouvelle double zéro. Une jeune femme vraiment désarmante. Vous avez déjà piloté ce genre d'engin ?
Absolument pas.
Les Anglais pourront le voir jeudi, hein, en salle. En France, il faudra attendre le 6 octobre. Et c'est une page qui se tourne pour Daniel Craig, qui incarne l'agent secret depuis 2006.
To have the opportunity to make these films has been one of the it's the biggest thing in my professional career, clearly, but one of the biggest things in my life. And it's very emotional. I'm glad I'm sort of ending it on my own terms, which is really I'm grateful to the producers for allowing me to do that. But I shall miss it. I mean, I won't. I mean, I'll probably be incredibly bitter when the new person takes over.
On attend maintenant de savoir quel acteur succédera à Daniel Craig dans le rôle de 007, quel acteur ou quelle actrice.
Le foot ce soir, premier choc de Ligue des Champions pour le PSG.
C'est la rencontre de tous les dangers pour deux clubs cousins. Cousinage qui nous emmène dans le golf. Vous connaissez les liens entre le PSG et le Qatar, bien sûr. Et bien pour le club de Manchester City, c'est Abu Dhabi le propriétaire. Deux Émirats et un seul trophée dans le viseur, la Ligue des Champions. Pour y parvenir, il faut de l'argent, beaucoup d'argent. Vous le voyez à l'écran sur le marché des transferts. Manchester City est le club qui a le plus investi, dépensé ces 10 dernières années. 1,680 milliard d'euros. Le PSG n'est que cinquième dans ce classement, avec 1,400 milliard d'euros. Ça, c'est pour le match des chiffres avant le match sur le terrain. Puisqu'on parle de Manchester City, une information tombée dans la journée. Benjamin Mendy, défenseur français, champion du monde, normalement à Manchester City. Il est incarcéré depuis la fin du mois d'août, accusé de viol et d'agression sexuelle. Eh bien, le jeu vidéo FIFA l'efface de son édition 2022 qui sort en fin de semaine. Son avatar, son personnage, disparaît simplement du jeu vidéo. Le club, je le précise, avait déjà supprimé les produits qui mentionnent son nom. Et puis enfin, c'est beaucoup plus léger, la préparation du match ce soir côté supporters. Et quel supporter ? L'ancien du PSG, Eric Rabesandratana, qui tweet hier soir devant un bar parisien, la légende du football, le Brésilien Rai, qui fait quelques jongles. Et à 56 ans, il est toujours dans le courail.
Bonsoir Richard Anconina.
Bonsoir.
On est ravis de vous accueillir à l'occasion de Coupable, un texte tellement fort qu'il vous a convaincu de faire du théâtre quasiment pour la première fois de votre carrière. Mais hein, bon, c'est un jour de match aujourd'hui. Donc c'est un miracle de vous avoir sur un plateau de télévision.
Si ça se passe bien, si ça va suffisamment vite, je peux peut-être voir le match.
Ah, c'est ça l'idée, c'est qu'il ne faut pas qu'on prenne une minute de retard.
Voilà.
Parce qu'après, c'est taxi-moto direction le parc.
Voilà. Non, je n'irai pas au parc, mais j'ai pas de place.
On peut peut-être arranger ça, on peut faire un appel, une place pour Richard Anconina. Parce que c'est un match de gala ce soir.
Mon écran me convient très bien.
C'est vrai ? Oui. Parce que vous êtes capable d'annuler un rendez-vous avec la reine d'Angleterre s'il faut quand il y a un match au PSG.
C'est la reine d'Angleterre, ça n'a jamais été prévu, mais bon.
Et avec Anne-Elisabeth Lemoyne aussi.
Ouais, je peux l'enregistrer. Le match.
Ah, vous seriez prêt à enregistrer un match ? Non, mais même quand vous êtes au parc.
Non, enregistrer Anne-Elisabeth.
Ah, non. Même quand vous êtes au parc, vous enregistrez le match.
Non.
Ça, c'est une fausse info.
C'est une fausse info. Quelqu'un vous a dit ça ? Non, c'est n'importe quoi.
Que quand vous alliez au match, vous enregistriez non. à la télé pour rentrer chez vous et revoir le match.
Ça m'est jamais arrivé. En tout cas, pas cette année, en tout cas.
Mais si, il vous rend fou. C'est votre idole.
J'aime beaucoup.
Il va marquer ce soir ?
J'espère qu'il va marquer, et que Mbappé va marquer, et que tout le monde... Di Maria aussi.
3-0, c'est ça ?
3-0, 7. C'est ça.
7-0. Commencez pas.
7-0, c'est le pronostic de Richard Anconina, qui j'espère aura une place ce soir au Parc des Princes. On le saura d'ici 20h50. Vous restez avec nous, cher Richard Anconina, parce qu'on va parler de ce texte hyper fort, coupable, que vous interprétez au studio des Champs-Élysées depuis la fin août. À tout de suite au Théâtre Marigny. Je dis que n'importe quoi. Merci Noël, merci Charlotte. À tout de suite avec Richard Anconina, qui est notre invité. J'ai eu le temps de dire...